Bonjour, ici Mathéo, vous êtes sur Radio Campus, en direct du collège Saint-Exupéry, pour 2 heures d'émission spéciale. Aujourd'hui, c'est un jour particulier au collège, car ce samedi ont lieu les portes ouvertes. À cette occasion, 2 événements importants sont prévus. L'intégration du collège au réseau des écoles associées à l'UNESCO et l'inauguration de notre collège pilote, la main à la pâte. Notre émission aura donc pour thème toutes les actions faites au collège autour des ODD, ou Objectifs de Développement Durable. Mais d'abord, la question que vous posez tous, que sont les Objectifs de Développement Durable ?
Les jeunes ont la parole sur Radio Santec.
Bonjour Léam.
Bonjour Nora.
Aujourd'hui, nous allons vous parler des Objectifs de Développement Durable. Le Collège Saint-Exupéry de Saint-Jean-de-Bray a été accepté dans le réseau des écoles associées à l'UNESCO le 26 octobre 2017. Mais dis-moi Léane, c'est quoi l'UNESCO ?
Alors, c'est très simple. Tout commence au début du XXe siècle, l'humanité se déchire, c'est la Grande Guerre de 14-18. Conscient de l'atrocité des combats, les hommes tentent de mettre en place la Société des Nations afin d'éviter les guerres, sans succès. Après 6 ans de guerre, les peuples s'entendent enfin pour créer une organisation internationale pour la paix. C'est l'ONU, ou Organisation des Nations Unies. L'ONU crée une institution pour les jeunes, c'est l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
L'Agenda mondial de l'éducation 2030.
Nous voulons la paix, un monde plus juste, l'éducation pour tous, le respect des droits internationaux, plus de respect pour l'environnement. C'est au travers de 17 objectifs de développement durable, ou ODD, établi par l'UNESCO, que chaque habitant de la Terre pourra vivre dans de meilleures conditions.
Collège Saint-Exupéry. Objectifs de développement durable.
Environnement, sciences, éducation,
surcyclage.
Ces objectifs ont donné lieu à des projets au collège, dont nous allons vous parler ce matin. Pour commencer, arrêtons-nous sur l'objectif numéro 4, éducation de qualité, et découvrons des projets autour de la lecture et de l'écriture menés avec l'association Tu connais la nouvelle. Tevic nous interprète une chanson qu'elle a écrite lors de la journée de la nouvelle. Il fallait rédiger et interpréter un texte à propos de l'écriture sur un air connu, je vous laisse découvrir lesquels.
C'est notre passion, pas besoin d'un quelconque don. Votre talent a toujours été présent. Et si jamais il est caché, il est grand temps de le révéler. Imaginez, découvrir et inventer votre histoire. Votre histoire, votre histoire. N'ayez pas peur de vous lancer, couchez vos mots sur le papier, vous inquiétez pas, vous y arriverez. Avec de la motivation, vous aurez d'autres sensations et vous serez très fiers pour l'éternité. Votre histoire, votre histoire, votre histoire.
Merci pour ce moment musical. Avant la journée de la nouvelle, 2 classes de 3e avaient participé au projet d'écriture de nouvelles tout au long de l'année. Alejandro et Marilyn me rejoignent pour vous en parler. Bonjour Alejandro, bonjour Marilyn.
Bonjour.
Que pouvez-vous nous dire du projet d'écriture ?
Alors, moi, ce projet, je l'ai trouvé très intéressant parce que nous avons été accompagnés par une auteure, Jeanne Desaubry, qui était vraiment disponible pour nous tout au long de ce projet et a pu répondre à toutes nos questions, donc même les plus insolites, par exemple, si elle avait déjà eu envie de tuer quelqu'un. Donc, j'ai trouvé ça... Vraiment gentil de sa part.
Pour moi aussi, ça a été. Je trouvais le projet génial puisque on a pu avec l'auteur partager des moments, écrire des textes, jouer avec les mots, savoir utiliser les mots pour produire nos propres textes et refléter notre propre personnalité. Ça a été de très bons moments puisque on a eu des heures d'écriture et on a pu. Tous ensemble écrire et produire nos propres histoires et je trouvais ça fantastique.
Vous avez parlé de Jeanne Desaubry. Pouvez-vous approfondir sur la première rencontre ?
La première rencontre, c'était génial mais aussi un peu particulier puisque on a quand même rencontré une grande auteure et on a pu découvrir un peu quel était le métier d'auteur, mais aussi on a découvert une personne et on a une personnalité et elle a pu nous donner, dès la première rencontre, plein de conseils et a su nous motiver et nous donner envie d'écrire des histoires et de faire surgir l'auteur qui est en nous.
Très bien. Alors, avec Aurélie Audax, la comédienne qui vous a accompagnée, que pouvez-vous nous dire de cette expérience ?
Alors là encore, c'était vraiment très intéressant parce que cette comédienne professionnelle a su nous aider à développer notre expression orale avec le théâtre. Et moi, j'ai trouvé ça comme une première expérience avec le théâtre. C'était super. Notamment parce que on a pu théâtraliser nos propres textes et c'était d'autres personnes de notre classe qui les jouaient, ce qui pouvait nous surprendre parfois par la mise en scène.
Et vous, Alejandro ?
Oui, moi aussi, j'ai trouvé ce moment avec la comédienne fantastique puisque elle nous a, comme elle a dit Marilyn, elle nous a ouvert. Initié un peu au monde du théâtre, mais on n'a pas vraiment eu le temps de découvrir entièrement le monde du théâtre, mais on a déjà vu comment se dérouler et comment se passait le monde du théâtre. Et aussi ce qui m'avait choqué, enfin, c'est qu'au début de la séance de théâtre qu'on avait fait, tout le monde était timide, on avait du mal à s'ouvrir aux autres, alors qu'à la fin de la séance, on commençait déjà à se sentir à l'aise dans le rôle d'acteur et de comédien, et c'était vraiment un très beau moment.
Très bien. Pour les séances d'écriture avec Jeanne Desaubry, quel a été votre ressenti ? Que pouvez-vous nous dire de positif ou de négatif ?
Alors là encore, l'auteur nous a accompagnés, notamment en lisant intégralement tous nos textes, ce qui lui a pris beaucoup de temps puisqu'on n'était pas les seuls. Donc j'ai trouvé ça vraiment qu'elle était investie dans ce projet. Et puis elle a pu nous donner plein de conseils pour qu'on perfectionne au maximum notre texte. Et je trouve que ça nous a beaucoup apporté.
Et voilà, Andrew.
Pareil, c'est une chance d'avoir un auteur avec nous pour pouvoir nous accompagner et nous donner encore des conseils pour que notre histoire soit encore mieux et que on puisse faire quelque chose d'incroyable puisque avec notre imagination, ses conseils et les mots, on peut faire tout.
Parlons de la journée d'écriture en elle-même, la journée de la nouvelle. Quel souvenir gardez-vous de cette journée ? Que pouvez-vous nous dire du déroulé de cette journée ?
Évidemment, de très bons souvenirs parce qu'il n'y avait que du positif. Déjà, la forme du programme était très ludique, donc sous la forme d'un menu, donc apéritif, entrée, plat et dessert, auquel j'ai participé. Et c'était en groupe, donc par affinité, donc ce qui a rajouté au bon moment, puisque c'était génial.
Et voilà, Andrew.
Pour moi, ça, en plus qu'il fasse beau, ça a été une journée rayonnante, puisqu'on a pu partager des moments avec les autres, on a pu nourrir notre créativité. Par exemple, nous, on avait choisi comme thème de faire un texte de 1 minute et demie où on devait placer des mots du style stiletto, paddle ou Emmanuel Macron même. On devait placer ces mots dans le texte, donc c'était assez rigolo puisqu'on a pu produire, avec mon groupe, on a produit un texte vraiment rigolo et c'était un super moment que je pense que je n'oublierai pas.
Très bien. Pendant toute l'année, tous les élèves ont écrit un texte. Que pouvez-vous nous dire de l'investissement des élèves et de vos camarades, ou même de vous, dans ces projets ?
Eh bien, pour ce projet, ce qui est incroyable, c'est que tout le monde s'est investi. Tout le monde a écrit un texte. Même s'il y en a certains qui n'ont pas réussi à le finir, tout le monde a produit un texte. Même si ça dépend des points de vue, il y a certains qui vont apprécier tel texte ou tel texte. Tous les textes étaient superbes, extrêmement bien réussis. Et c'est vraiment un projet où tout le monde s'est donné à fond dedans. Et c'était juste pour notre plaisir qu'on a fait ça. Et voilà.
Et vous, Marilyn, que pensez-vous de l'investissement de vos camarades ?
Donc, comme l'a dit Alejandro précédemment, j'ai aussi trouvé qu'ils s'étaient vraiment investis, même ceux qui restaient un petit peu à part dans d'autres projets. Tout le monde a vraiment créé quelque chose à sa façon, sans copier les autres, et donc en ressortant leur propre personnalité. Et quand on lit leur texte, ça se voit, et c'est génial.
Très bien, donc nous avons fini là les questions pour la journée de la nouvelle. Donc écoutons Jeanne de Zobry nous parler des plaisirs et des difficultés du métier d'écrivain.
Ce qui me plaît, c'est ce que je viens de dire, c'est le processus créatif, c'est-à-dire en toute humilité, je suis Dieu. Au moment où j'écris, je crée le monde. Je crée le monde dans lequel mon histoire va se passer. Donc ça me plaît complètement. Il y a quelque chose qui n'a pas de prix. C'est l'estime qu'on a pour soi et pour ce qu'on fait. La satisfaction de la chose qu'on fait en donnant le maximum. Ça n'a pas de prix. De ce côté-là, je suis très riche. Financièrement, non. Ça ne rend pas riche. D'autant que malheureusement, dans le monde de l'édition, à part des gens que tu vois partout sur le... Tu sais, on dit au cul des bus et dans les supermarchés et tout... moi je gagne 80 centimes par livre. Donc tu vois le nombre de livres qu'il faudrait juste pour remplacer ma voiture. Ça dépend de ce que j'écris. Il m'est arrivé de pleurer en relisant une scène de suicide que je venais d'écrire. D'un coup, tu vois, j'étais plus... l'émotion est montée et c'est une héroïne à laquelle sans doute je m'étais identifiée. Et je racontais comment elle se suicidait en mettant de la musique, en prenant des médicaments, en rangeant d'abord toute sa maison. Et au moment où j'ai relu cette scène, j'étais là sur mon écran à changer un mot, à en déplacer une phrase et tout. Et d'un coup, ça m'a envahi, quoi. Et puis des fois, je m'endors. Et ça, c'est un signe. Quand je commence à m'endormir sur mon clavier, c'est qu'il faut que j'arrête. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors j'arrête tout, je ferme les cives ou je ne sais quoi. Les courses, engueuler mon mari, caresser mon chat. Tricoter. Et après, je me dis, bon, qu'est-ce qui n'allait pas ? Ce n'est pas un métier écrivain, c'est ça paraît bizarre à dire, vocation comme mot tu sais. Voilà, c'est quelque chose que tu fais de toute façon en plus. Donc par contre, comme métier, maintenant je suis éditrice. J'en ai fait plein d'autres avant. Mais de toute façon, écrire, je le ferai toujours. Je pense. Sauf si, comme M. Roth, qui est un grand écrivain américain, mort hier, à 82, 3 ans, il y a 10 ans, il a dit j'arrête. Le seau est vide. Il y aura bien encore 2 ou 3 pages dedans, mais c'est tout. Le seau est vide. J'ai trouvé que c'était très joli. C'est-à-dire qu'il a écrit pendant 60 ans, cet homme-là, peut-être 70. Et un jour, il n'avait plus rien à dire, alors il a arrêté. Et qu'est-ce que je dirais à un jeune qui veut écrire ?
Un jeune ou une jeune.
Ben vas-y, fonce. Écris tout le temps, écris pour toi. Et puis un jour, soumets-le à quelqu'un. Et puis, de toute façon, l'écriture, c'est un processus créatif. Je n'emploie pas des mots trop compliqués, vous suivez là quand même. Hein. C'est quelque chose qui, au même titre que peut-être la sculpture, que le sport, que... Peu importe ce à quoi on se consacre, on se donne, ça fait toujours du bien, déjà. Peu importe, tu t'écris comme un pied. Et puis d'abord, sûrement toujours quelque chose de bien. Je me souviens d'un auteur qui disait « Une bonne phrase peut racheter tout un mauvais roman. » Donc il faut écrire. Ah oui. Faut pas se dire « C'est pour les autres, je ne saurai jamais. C'est pas pour moi, je ne sais pas faire. » Si vous avez l'envie, il faut y aller. Pour vous, dans un petit cahier, peut-être en secret, peut-être à donner à lire aux autres, allez-y.
Avec Tu connais la nouvelle, une autre classe de 3e a participé à un atelier d'écriture avec un auteur, Frédéric Forte. Elliot va vous en parler.
Alors dans le cadre de la sortie pédagogique donc en français, nous sommes allés donc voir Frédéric Forte, qui est né à Toulouse le 20 mars 1973. Il fait partie de l'organisme Oulipo, donc l'ouvroir de littérature potentielle, qui est généralement désigné par son acronyme Oulipo. C'est un groupe international de littéraires et de mathématiciens qui se définissent comme des rats qui construisent. Il a été créé en 1960 par Raymond Queneau et Frédéric Forte. On a travaillé avec lui sur « Tout le monde se perd ». Donc en fait, on se met à un point et on regarde tous les points cardinaux et on écrit... une petite phrase sur chaque point cardinal. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on était à un endroit et au sud-ouest, entre ces barreaux de fer et ces feuillages, un chemin rouge, la braise. À l'ouest, des boîtes roses, bleues, beige, un pilier, une chose cachée par un mur, un secret des gens mystérieux. Au nord-ouest, des arbres cachant l'entrée des enfers. Ils sont beaux. Des piliers. Laïcité, fraternité, des charrettes à moteur conduisant à ce bâtiment. Au nord, un G, grandir. En même temps, c'est le lycée. Du bois, des stores, une boîte avec des outils de travail sûrement. Au nord-est, abandonné, un puits fleuri, une indication, un avertissement. Neuf, c'est ce que c'est, ce coffre blanc renfermant le savoir. À l'est, infirmerie, un blessé. Un vélo stationné, une poubelle, mangée par les ronces, des travaux. Au sud-est, des cages regroupant une terre verte, grand, des bâtiments, des habitations, des fleurs. Au sud, un goudron, un banc, une autre poubelle, de l'herbe, un grillage, le terrain, des arbres.
Merci Elliot. Enfin, tous les élèves de 5e sont allés voir une pièce de théâtre de Molière, Monsieur de Pourcenac. Habibou et Ekin nous racontent leur expérience.
On a décidé de voir Monsieur de Pourcenac au début de l'année.
Monsieur de Pourcenac est une pièce écrite par Molière. Cette pièce a été représentée pour la première fois le 6 octobre 1669 devant le roi de France, Louis XIV, au château de Chambord et proposée au public pour la première fois à Paris le 15 novembre 1669 au théâtre du Palais Royal.
Cette pièce parle d'un riche bourgeois nommé Monsieur de Pourcenac. Il veut se marier, mais sa promise ne l'aime pas et elle aime quelqu'un d'autre, donc avec d'autres personnes, elle va lui faire des farces pour le faire partir. Pour Sonyac est harcelé. Ils font croire qu'il a des dettes, qu'il est déjà marié et donc qu'il est polygame.
Le 19 avril, on est allé au théâtre à la salle des fêtes. La mairie nous a prêté la salle. Cette pièce a duré presque 1h30. Pour moi, la pièce qu'on a lue en forme de livre était très, très ressemblante à la pièce de théâtre. J'ai trouvé que la pièce était drôle et même j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Il y avait des parties un peu exagérées par rapport au livre. Mon personnage préféré était Monsieur de Pourceaugnac. Et surtout parce qu'il était drôle, mais en général, tous les acteurs étaient drôles. À la fin, on nous a posé des questions aux acteurs, mais celui qui répondait était un peu fatigué. Au retour, on n'avait plus d'eau, alors c'était encore plus fatigant, mais la sortie était très bien, j'ai adoré.
Merci Abibou, merci Ekin. L'objectif de développement durable numéro 5, égalité entre les sexes, a été travaillé en cours de français en 3e avec des débats agités. Maëva, Madia et Clémence nous en parlent.
Durant un débat en classe, nous avons pu observer et constater certains comportements et propos machistes de la part de quelques garçons. Il y a eu des arguments comme « les femmes devraient rester à la cuisine ». Pourtant, après un rapide sondage dans la classe, nous avons constaté que autant d'hommes que de femmes savaient faire à manger et que dans les familles, les tâches ménagères et la cuisine étaient effectuées aussi bien par les pères que par les mères, ce qui prouve que la société a beaucoup évalué sur ce point et ce qui contredit leurs propos.
Après quelques conversations, certains élèves ont dit que si la société était comme ça depuis toujours, ils ne voyaient pas pourquoi cela devrait changer.
Il est vrai que les mentalités ne sont pas simples à faire évoluer, bien que beaucoup de changements ont déjà été effectués. Au cours du dernier siècle, de nombreuses lois sont passées en faveur des femmes, comme en 1944, le droit des votes des femmes.
En 1947, Germaine Poisseau-Chapuis est la première femme nommée ministre.
En 1967, une loi autorise la contraception.
En 1972, la loi posant le principe de l'égalité des salaires est adoptée, même si aujourd'hui elle n'est pas complètement respectée.
En 1975, la loi Veil autorise l'IVG et une autre instaure le divorce par consentement mutuel.
En 1983, la loi Roudy sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est adoptée.
En 1991, Edith Cresson est la première femme Premier ministre.
Et en 1992, une loi crée du harcèlement sexuel dans les relations de travail, un délit.
Des lois, mais il faut que les mentalités continuent de changer.
Merci les filles. Lisa nous présente une grande féministe, Olympe de Gouges.
Olympe de Gouges, de son vrai nom Marie Gouges, est née le 7 mai 1748 à Montauban et morte guillotinée à Paris le 3 novembre 1793. C'est une femme de lettres française devenue une femme politique. Elle est aussi considérée comme l'une des pionnières du féminisme français. Elle est connue pour sa reprise de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle est née dans une famille de nobles, s'est mariée à 17 ans suite au décès de son mari. Elle se consacra alors à la littérature. C'est à ce moment-là qu'elle changea son nom. En décembre 1791, Olympe de Gouges publia la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle invita donc les citoyennes à faire leur propre révolution. Je cite « Les femmes seront-elles toujours isolées les unes des autres et ne feront-elles jamais corps avec la société ?» La déclaration d'Olympe de Gouges part de l'idée que les femmes qui possèdent toutes les facultés intellectuelles ont par nature les mêmes droits que les hommes, la nation étant définie comme la réunion de la femme et de l'homme, d'après l'article numéro 3 de la Déclaration des droits de la femme. Préambule. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Article 1. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 7. Nulle femme n'est exceptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle a le droit également à avoir celui de monter à la tribune, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient sans qu'un préjugé barbare la force à le dissimuler. » Sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans des cas déterminés par la loi.
Merci Lisa. Merci Lisa. L'objectif de développement durable numéro 1, paix, justice et institutions de qualité, a permis aux élèves de 3e de participer au concours de la résistance et de la déportation en réalisant une des émissions de radio de l'année. Alejandro, Marilyn, Solène, Cyril, Flavien, Lisa, Romain et Jérémy sont interrogés par les professeurs qui les ont accompagnés.
Alors, tout d'abord, pourquoi avez-vous accepté de participer à ce concours de la résistance et de la déportation ?
J'ai décidé de participer à ce concours parce que j'ai trouvé cela très intéressant et je me suis dit que ça pourrait m'apporter beaucoup de connaissances en plus de ce qu'on apprend en cours et je voulais en savoir plus sur ce qui s'était réellement passé.
Moi, j'ai choisi ce sujet car je voulais en apprendre plus sur Saint-Exupéry, sur notre collège et surtout sur ce qu'il a vécu. Et puis, je me suis dit que ça ferait un bon plan pour m'apporter une culture générale plus aboutée.
Bah, personnellement, j'ai choisi de participer à ce concours parce que pour moi, c'est quelque chose, c'est un honneur pour tout le monde, un honneur pour la France et pour moi-même.
Et ce concours, que vous a-t-il apporté dans votre scolarité cette année en classe de 3e ?
Eh bien, ce concours, on peut se dire qu'il nous a apporté beaucoup de connaissances sur ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, mais ce concours nous permet aussi d'entretenir la mémoire, de comprendre ce qui se passe, de nous faire prendre conscience de ce qui s'est passé et pour ne pas reproduire les erreurs qu'on a faites dans le passé, pour ne pas les reproduire dans le présent. Moi, je retiens ça.
Surtout aussi, cela nous a permis de ne pas oublier les héros de la guerre, comme Antoine de Saint-Exupéry, et d'honorer leur mémoire.
Cela nous a permis de le découvrir et d'apprendre un petit peu plus sur sa vie d'Antoine de Saint-Exupéry. Notre collège porte son nom, donc c'était bien de voir un petit peu qui c'était. Et ça nous a permis de le découvrir, principalement lui, mais aussi un petit peu la Seconde Guerre mondiale, bien qu'on l'ait aussi fait en histoire.
Quelles ont été vos émotions, votre ressenti pendant la préparation du concours ?
Alors moi, déjà, j'ai beaucoup apprécié ce concours parce que ça m'a beaucoup intéressée. Et puis le fait que ce soit une fiction radio, c'était une expérience plutôt originale par rapport à d'autres. Et j'ai aussi, quand j'ai appris comment il était mort, parce que je ne savais pas les circonstances précises de la mort de Saint-Exupéry, j'ai éprouvé beaucoup de compassion pour lui parce que il n'a peut-être pas pu dire au revoir à toute sa famille et j'ai trouvé ça vraiment très triste.
Ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est que on connaît les personnes très mal puisque la preuve, Saint-Exupéry n'est pas vraiment connu comme résistant. Et c'est aussi ça qui m'a plu, c'est de découvrir une autre facette du personnage, d'apprendre comment on réalise une fiction radiophonique, comment préparer aussi le concours. Et j'ai beaucoup aimé l'entente au sein du groupe et le fait qu'on ait réalisé quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, qui a mérité un prix, un certain respect. J'ai beaucoup aimé.
Écoutons un extrait de l'émission.
Thank you.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission spéciale pour le concours national de la résistance et de la déportation sur le thème suivant. S'engager pour libérer le territoire à travers le personnage de Saint-Exupéry.
Le temps de la décision. Le 1er septembre 1939, dans un contexte de montée en puissance de l'hitlérisme, l'Allemagne nazie envahit la Pologne, elle viole ainsi le traité de Versailles et les accords passés dans l'entre-deux-guerres. La France et le Royaume-Uni sont obligés de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie. Le 3 septembre, du fait de l'alliance de défense contractée avec l'Allemagne, la France mobilise ses soldats aux frontières du Nord et de l'Est le long de la ligne Maginot, afin d'éviter toute invasion allemande.
Antoine de Saint-Exupéry, pilote de ligne de l'aéropostale et les soldats, se sent directement concerné et souhaite s'engager, et cela malgré son âge et le fait qu'il n'ait pas volé depuis 3 ans.
Écoutons une fiction radiophonique sur son incorporation.
Base aérienne de Toulouse, incorporation militaire de Saint-Exupéry.
Capitaine Saint-Exupéry, je suis le docteur Romain, rattaché à la base militaire de Toulouse. Vos résultats ne sont pas bons. Ils révèlent que vous êtes inapte à piloter un avion de chasse.
Je dois vous avouer que j'ai un trop mauvais souvenir des tueries auxquelles j'ai assisté pendant la guerre d'Espagne en tant que reporter pour Paris Soir.
Capitaine, on n'est pas là pour perdre la guerre et pour s'apitoyer sur le sort des ennemis.
Je suis un ancien pilote des lignes aéropostales, l'un des hommes qui, dans l'armée alliée, compte le plus d'heures de vol. Même si la technologie a progressé, vous ne pouvez pas m'écarter comme ça.
En effet, le capitaine a montré ses qualités d'aviateur et peut nous être utile au combat.
C'est évident, vous avez besoin de moi pour défendre et libérer le territoire.
Peut-être, mais cela est presque impossible, vous n'êtes plus en âge. Désolé, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose pour vous. Votre entraînement date de l'hiver 1939, il n'a plus rien à voir avec l'entraînement actuel. Avec votre épaule cassée, vous aurez du mal à enfiler la lourde combinaison de vol.
Mon épaule cassée va mieux. Et pour l'entraînement, rassurez-vous, je vais apprendre vite.
Pour l'épaule, je confirme, les derniers tests sont rassurants.
Bon, écoutez, je vais voir avec mon supérieur et je vous recontacte pour vous donner la réponse.
Merci de votre écoute, je compte sur vous.
Cette même année est publié son roman Terre des Hommes. Son livre sort le 14 décembre 1939 et obtient le Grand Prix de l'Académie française. Il y raconte son accident dans le désert libyen et y exprime des valeurs d'humanisme, d'héroïsme et de courage dans un contexte de 1939 qui voit de nouveau la France en guerre.
Le 10 mai 1940, c'est le début de la Blitzkrieg. La guerre est claire. La France se fait très rapidement envahir par l'Allemagne nazie, qui contourne la ligne Maginot, viole la neutralité de la Belgique et atteint Paris en quelques semaines. C'est la débâcle et le début de l'exode. Les peuples fuient le nord et l'est.
Saint-Exupéry est rattaché à la base aérienne de Toulouse et ne peut que constater la défaite française.
Le 22 juin 1940, l'armistice est signé par Pétain, nouveau chef de gouvernement, à la tête du régime de Vichy. De Gaulle est parti pour Bordeaux, puis Londres, d'où il lance un appel à la résistance. Le 10 juin 1940, la lutte pour la libération du territoire débute à l'extérieur comme à l'intérieur des frontières de la France.
Saint-Ex est dans le temps de la décision. Il hésite. Il cautionne l'action de Pétain et admet la défaite de la France, mais il ne collabore pas. Il sera comme de nombreux Français dans l'incompréhension et l'attente. L'année 1940 le plongera dans la réflexion. Son antipathie pour De Gaulle fait peser des soupçons sur son engagement pour libérer le territoire. Il décide de partir. C'est le temps de l'action.
Le temps de l'action. Décembre 1940, novembre 1942.
En décembre 1940, Saint-Exupéry embarque à Lisbonne pour les États-Unis. Sa décision est prise. Il faut agir pour libérer le territoire, d'autant que la souffrance est intime. Le 27 novembre 1940, Henri Guillaumet, son ami d'enfance, meurt en combat.
Après avoir soumis l'Europe du Nord et de l'Ouest, Hitler se fixe un nouvel objectif. Le 22 juin 1941, la guerre prend une autre tournure. L'Allemagne nazie rompt le pacte germano-soviétique et envahit l'URSS.
Saint-Ex s'installe à New York. Suite à la proposition de Pétain d'intégrer le gouvernement de Vichy, il critique les lois antisémites de Pétain, mais se fait traiter de collaborateur. La résistance française de l'extérieur hésite à lui faire confiance. Il choisit donc une autre voie pour libérer la France. Saint-Exupéry veut faire entrer en guerre l'armée américaine en présentant comme argument le courage et la motivation de l'armée française libre. En février 1941, pour appuyer son engagement, il écrit dans Pilote de guerre.
Un village au cours d'une guerre n'est pas un homme de tradition. Aux mains de l'ennemi, il n'est plus qu'un niara. Tout change de sens. Ainsi, tels arbres de 300 ans abritaient votre vieille maison de famille, mais les jeunes le tir d'un lieutenant de 23 ans. Il expédie donc une quinzaine d'hommes à Nancy chez vous l'œuvre du temps. Il consomme pour une action de 10 minutes 300 ans de patience et de sommeil. 300 années de religion de la maison et de fiançailles sous les ombrages du parc.
En décembre 1941,
restant dans cet objectif numéro 1, depuis 2 ans, les élèves du collège peuvent participer au projet Erasmus+, qui avait pour thème « Les réfugiés en Europe, notre futur en mouvement ». Sarah et Margot ont participé au dernier échange à Prague. Écoutons leurs impressions. C'est quoi Erasmus+?
Erasmus+, est un programme d'échange entre des établissements scolaires dans toute l'Europe. Chaque projet dure 2 ans et celui auquel nous avons participé était sur le thème des réfugiés. Les pays qui y participaient étaient le Royaume-Uni, la République tchèque, l'Espagne, la Turquie, l'Allemagne et la France. Au cours de ces 2 années, des élèves du collège ont pu partir une semaine dans un de ces pays. Nous avons eu la chance d'aller à Prague en mai.
Quel est le point positif de l'échange auquel vous avez participé, donc ?
Nous avons eu l'occasion de nous faire des amis provenant des 4 coins de l'Europe. Nous avons également pu découvrir un nouveau pays. Nous avons aussi pu améliorer notre anglais.
Sur ce même thème, les 4e ont fait des recherches dont ils nous font profiter.
Dans un tweet, Eric Sautier a déclaré qu'il ne voulait pas que le bateau d'Aquarius, qui a vu son arrivée refusant en Italie, aborde à Nice ou à Marseille. Sautier fait partie de tous ceux qui considèrent que nous ne pouvons pas accueillir plus de migrants. Il veut fermer toute arrivée de migrants en France.
Qu'en pensez-vous de sa réaction ?
D'un côté, il s'exprime pour dire qu'il est légitime de montrer de la fermeté. Si on continue d'accepter les migrants, ils continueront de venir dans nos pays. De l'autre côté, si on ne les accepte pas, il y aura plus de morts. Il n'y a pas de surpopulation en France, c'est un pays riche. Au collège, il y a des élèves sans papier, mais heureusement, ce n'est pas à l'école de faire la police. Ils sont protégés. Venir à l'école, c'est leur donner plus de possibilités pour leur avenir.
Mais nous avons eu un jeune Ivoirien nommé Abou qui est venu en stage. Il a franchi la mer en Zodiac, nous l'avons interviewé.
Abou est un mineur qui a fui son pays parce qu'il avait peur de mourir. Au cours de son voyage, il a failli mourir plusieurs fois.
Abou a dû prendre des camions, faire du stop, marcher pour arriver jusqu'en Algérie. Il arrive au Maroc pour prendre un bateau de fortune. Les passeurs les menacent avec des couteaux pour qu'ils donnent tout leur argent. Au point même de les taper avec des bâtons pour casser les pieds des personnes.
Oui, donc ils ont pris tout mon argent. Donc, parce qu'ils ont enlevé le couteau, que soit si on ne donne pas l'argent, ils vont nous tuer. Au pire, on a vu, ils ont frappé quelqu'un avec bois pour casser son pied. Donc j'ai vu tout ça, donc j'ai vu, j'ai dit bon, ok. Donc j'ai donné tout mon argent.
Tu as eu peur ?
Oui, j'ai eu peur parce que ma grand-mère, elle craint pour moi.
Oui.
C'est l'homme qui cherche l'argent.
Oui.
Si j'avais mes jours durs, soit ils allaient casser mon pied, oui. Soit ils allaient casser un de mon œil, soit ils allaient casser ma main. Donc j'ai donné tout mon argent. Maintenant je suis resté. Même cette nuit, quand le scorpion m'a mordu, cette nuit, j'ai eu douleur. Donc ils ont appelé les médecins sans frontières. Ils sont venus me prendre. Ils m'ont dit, toi, tu as longue vie. Elle m'a dit, non, tu as longue vie, parce que sinon tu allais mourir. J'ai dit, bon, ok, donc il y a la chance. Donc, je suis parti en forêt. Maintenant, un jour, ils sont venus nous réveiller encore. Qu'est-ce qu'ils ont payé l'argent pour qu'ils vont partir en Espagne? Ils n'ont qu'à se lever. Ils vont prendre route. Maintenant, moi, je n'avais pas l'argent. Je me suis mélangé à eux.
La traversée était très compliquée. Les personnes à bord du Zodiac urinaient et vomissaient. Abou nous a raconté qu'il n'y avait rien à manger à bord et que les bateaux étaient troués. Ils étaient 55 sur un Zodiac de 8 mètres de long. Le Zodiac d'Abou est le seul sur les 3 à être arrivé en Espagne.
On met 55, on vous sait, on vous sait.
Et oui, vous étiez tous serrés.
Oui, il y avait des femmes, il y avait au moins 5 femmes. Et puis il y avait un bébé aussi dedans. Oui, donc quand j'ai vu ce truc, j'ai dit à le gars, faut pas créer la panique. Que c'est pas loin, que dans quelques minutes on va arriver.
Ça a mis combien de temps à traverser ?
Pourtant, on nous a mis sur la Méditerranée à 4h du matin.
Oui.
Parce qu'il faisait nuit, donc oui. Tu vois personne.
Oui.
Ça a 18h. 4h du matin, la nuit.
Oui. À 18h le lendemain ?
Oui, à 18h le lendemain. L'eau rentrait. Mais les gens ne savaient pas qu'il y avait un problème.
D'accord.
Donc c'est moi, j'avais une t-shirt aussi, j'ai enlevé ça. J'ai mis dans l'eau. Il y a d'autres qui pissaient dans le Zodiac, il y a d'autres qui vomissaient, il y a d'autres qui ils étaient paniqués. Donc on était là, on a vu un bateau de pêche qui passait, on avait soif. Mm-hmm. Et il nous a donné de l'eau. Puis après on a vu un grand navire.
Parce que vous n'aviez pas d'eau sur le Zodiac?
Non, il y a d'autres qui avaient de l'eau, mais si la route, on a tout bu.
D'accord.
C'est moi seul, j'avais de l'eau, mm-hmm, et puis biscuits. Mm-hmm. Biscuits. Donc j'ai donné tout mon biscuit avec les gens, les bébés que je te parlais de lui, oui, avec oui, de l'eau. J'ai donné à tout le monde, moi-même je n'ai rien mangé.
Et après il n'y avait plus rien?
Et après il n'y avait plus rien, moi-même, parce que quand j'ai enlevé, tout le monde dit j'ai faim, je oui, veux oui, boire l'eau. Donc j'ai donné à eux tous.
Accueillir des réfugiés, ça ne s'improvise pas. Il faut des structures d'accueil, des aides sanitaires et sociales. Cela coûte cher. Mais ils représentent une infime partie de la population mondiale. Et ce sont pour l'essentiel des jeunes capables de travailler et de créer la richesse à condition d'avoir la chance de s'intégrer.
Quelles sont les routes qu'ils prennent ?
Les passages à l'est de l'Europe sont fermés. Le passage entre la Turquie et la Grèce a permis beaucoup moins d'arrivées. Les migrants viennent par conséquent principalement d'Afrique en naviguant sur la Méditerranée.
Et comment font-ils pour traverser ?
Ils sont souvent obligés de faire des appels à des passeurs malhonnêtes. Ils leur prennent des fortunes, entre 800 et 8000 euros par personne, pour embarquer sur des bateaux surchargés. Alors arrivés en Grèce, en Turquie ou en Italie, ils sont orientés vers des centres de rétention. La procédure de régularisation est si longue que beaucoup de personnes préfèrent quitter des centres d'accueil sans papier. Ils sont de plus en plus nombreux à se retrouver coincés à la frontière.
Et comment ils font pour s'en sortir ?
Ils vivent dans la rue ou dans des camps. Nombre de migrants vivent sous des tentes ou en cabane, dans la boue ou dans les ordures.
Comment les politiques sont partis dans la question ?
Le sujet occupe une place importante dans le débat public, comme on le voit avec le tweet d'Éric Ciotti. Mais aussi au Front National, Marine Le Pen considère que l'on ne peut pas accueillir la misère du monde car ces étrangers prennent le travail des Français.
Les écologistes estiment au contraire que l'aide humanitaire est une obligation morale et absolue. Entre ces deux positions opposées se déclinent tout un tas de nuances et d'arguments. Mais il y a les paroles et les actes. Beaucoup de promesses sont faites. Les mettre en application, c'est une autre histoire.
Quelles seraient les solutions durables ?
Évidemment, pas question de renvoyer tous les réfugiés chez eux. Il faut accélérer leur intégration et soignant leur traumatisme, en les aidant à apprendre la langue du pays d'accueil, en facilitant leur accès à l'emploi. Mais les bonnes volontés ne suffisent pas. Les décisions importantes doivent être prises au niveau de l'Europe, appuyées par des volontés politiques, des États. Mettre tout le monde d'accord n'est pas une mince affaire.
Alors pour vous, quelle est la solution ?
Il faut que l'Union européenne trouve une solution pour accueillir les migrants. C'est sa responsabilité d'éviter les morts.
Il faut leur dire bonjour. Mm-hmm. Il y a les élèves aussi. Lui-même, il a sa propre nature. Mm-hmm. Même si ses parents lui donnent conseil à la maison, lui, il ne fait pas. Ce qui l'arrange, c'est ce qu'il fait. Donc moi, je considère, nous tous, on est même chose. Nous tous, on est même chose.
Changeons d'objectif maintenant. Objectif numéro 9. Industrie, innovation et infrastructure. Écoutons Elliot qui va nous parler d'un projet mené en sciences physiques et en technologie intitulé « Dans les yeux de Thomas Pesquet ».
Nous sommes allés au Futuroscope près de Poitiers. Nous devions notamment aller voir le film de la mission de Thomas Pesquet dans l'espace qui se nomme « Dans les yeux de Thomas Pesquet ». Ce film en IMAX permet aux spectateurs de vivre les sensations éprouvées par l'astronaute durant son voyage spatial. Dans ce film, on nous décrit les conditions de vie des 6 astronautes qui ont vécu pendant 6 mois dans la Station Spatiale Internationale. Thomas Pesquet fait partie des 6 candidats retenus en mai 2009 parmi les 8413 postulants. Il est le plus jeune astronaute recruté par l'Agence Spatiale Européenne. Thomas Pesquet a suivi un entraînement avant de se rendre dans l'espace pour sa mission. Cet entraînement a duré 7 ans, de 2010 à 2017. Pendant sa préparation, il doit s'entraîner à piloter le Soyouz, entrer en orbite avec la station spatiale, décollage et rentrer dans l'atmosphère. Il s'habitue dans une centrifugeuse à recevoir des accélérations croissantes pouvant aller jusqu'à 9G en cas de rentrée dans l'atmosphère non contrôlée. Le jeudi 17 novembre 2016, Thomas Pesquet et ses deux compagnons, le russe Oleg Novitsky, commandant de bord, et l'américaine Peggy Whiteson, chercheuse en biochimie, décollèrent à bord du Soyouz MS-03 de la Terre depuis le Kazakhstan. Dans la station spatiale, Thomas et ses compagnons ont réalisé plusieurs expériences. Les astronautes ont travaillé sur des maladies cancéreuses. Ils font des expériences de surface intelligente visant à empêcher la prolifération des bactéries. Au cours de son séjour dans l'espace, Thomas Pesquet réalise des photographies au premier Google Street View. Il mesure l'impact de la pesanteur dans la musculature. Il réalise trois expériences pédagogiques en collaboration avec des lycéens, comme l'utilisation de la matière auto-nettoyante utilisable dans les hôpitaux. Il mesure également l'incidence de la pesanteur sur les fonctions cognitives. Thomas Pesquet et ses compagnons devaient faire très attention aux déchets qu'ils produisaient et surtout, ils devaient veiller à ce que tous les déchets soient envoyés sur Terre par les véhicules cargo. Les déchets sont brûlés. Il effectue plusieurs sorties extravéhiculaires de 6 heures pour des missions de maintenance de la Station Spatiale Internationale. Pour ne pas s'ennuyer dans la station, les astronautes mettaient de la musique et chaque jour, c'était à l'un d'entre eux de choisir quelle musique ils allaient écouter. Thomas Pesquet pouvait discuter avec sa compagne et ses proches tous les jours. Malheureusement, il ne pouvait pas rester en ligne très longtemps. Pour son anniversaire, Thomas a reçu une trompette tout droit venue de la Terre par véhicule cargo. Thomas Pesquet s'entendait à merveille avec ses camarades. Après 6 mois passés dans l'espace, les trois astronautes repartent le 2 juin 2017. Après son retour sur la Terre, Thomas Pesquet a dû suivre des séances de rééducation car il ne pouvait plus marcher. Il a aussi été soumis à de nombreux examens. Il a ensuite été remis en forme.
Merci Elliot. Notre studio se transforme maintenant en salle de spectacle avec Lucia, Elliot, Thomas et Martin qui vont nous interpréter un slam. Ils ont travaillé en cours de français sur le thème de l'amour. Ils ont étudié la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, ainsi que le film West Side Story et le slam de Grand Corps Malade, pour écrire eux-mêmes leur slam. Ils sont accompagnés par Madame Kalujek.
Roméo et Juliette s'aiment sans précédent, d'un amour maladif avec un prix. Rien ne semble stopper cette ferveur sans souci, à part peut-être l'interdiction des parents. Roméo est cloîtré chez lui, Juliette de même. Pourquoi les séparer si ces deux jeunes la s'aiment ? Car Roméo a chez lui deux papas et ceux de Juliette prient Jésus tous les mois. Pas d'amour impossible pour les ados, même si c'est dur quand les parents te tournent le dos. Si ça t'arrive, t'en fais pas trop, fais comme Juliette et Roméo. Tous les soirs, Roméo et Juliette marchent, courent, volent pour se voir en cachette. Que ce soit au kebab ou au sushi, tout est bon pour un baiser au ralenti. Papa, crie Roméo, laisse-moi rejoindre ma copine. Non, lui rétorque-t-il, pas de chrétien chez nous. La dispute éclate aussi chez Juliette, graillant sa belle tartine. Maman, lui crie-t-elle, laisse-moi vivre, me casse pas la tête. Non, lui dit-elle, les gays, c'est pas pour nous. Excédée par une homophobie telle, Juliette prend 100 euros et son tel. Elle appelle Roméo et lui dit qu'elle se tire. Elle lui propose aussi, avec elle, de partir. Pas d'amour impossible pour les ados, même si c'est dur quand les parents te tournent le dos. Si ça t'arrive, t'en fais pas trop, fais comme Juliette et Roméo. Marchant sur la route, main dans la main, les deux ados ont le cœur plein. Tous deux très loin de leur maison, animés par la même passion. Pas d'amour impossible pour les ados, même si c'est dur quand les parents te tournent le dos. Si ça t'arrive, t'en fais pas trop, fais comme Juliette et Roméo. Pas d'amour impossible pour les ados, même si c'est dur quand les parents te tournent le dos. Si ça t'arrive, t'en fais pas trop, fais comme Juliette et Roméo.
Juliette a 16 ans et vit dans la Cambrousse. Elle aime la nature ainsi que les chevaux. Roméo vit là où aucune herbe ne pousse. Il a 15 ans et kiffe les jeux vidéo. Leur rencontre fut rapide, un regard leur suffit. L'un face à l'autre, leurs yeux se mirent à briller. Leur cœur battait si fort, leur peau avait rougi. Et c'est après un baiser qu'un grand amour est né. Roméo et Juliette, quel sera leur destin ? Entre les balades et les fêtes, ils avancent sans frein. Roméo et Juliette, quelle sera leur aventure ? Aujourd'hui, ils sont ensemble et la vie paraît moins dure. Un an après leur coup de foudre, ils s'aiment toujours autant. Ils se kiffent tellement qu'ils ne voient pas passer les jours. Ils se prennent pas la tête, ils s'attirent comme des aimants. Ce n'est pas une dispute qui briserait leur amour. Roméo et Juliette, quel sera leur destin? Entre les balades et les fêtes, ils avancent sans frein. Roméo et Juliette, quelle sera leur aventure? Aujourd'hui, ils sont ensemble et la vie paraît moins dure. D'une ville mêlant pavillons et cités, émane un amour dont l'existence est risquée. Tous les jours, ils se retrouvent en cachette, leurs noms les voici Roméo et Juliette. Mais Juliette est riche, elle dépense sans compter. Roméo, par contre, vadrouille dans la cité. Mais quand ils se rencontrèrent, ce fut le paradis. C'était la nuit quand tous les chats sont gris. Un regard, un éclair suffit pour les convaincre qu'en s'unissant, les darons ils pouvaient vaincre. Fini la tristesse, maintenant c'est l'amour, et si tout se passe bien, ce sera pour toujours. Mais à un moment, les darons ont des soupçons. C'est bizarre quand même qu'ils soient plus là la nuit. Tous quatre ont peur des mauvaises fréquentations. Alors, ceux de Juliette l'espionnent la nuit. Un regard, un éclair suffit pour les convaincre qu'en s'unissant, les darons ils pouvaient vaincre. Fini la tristesse, maintenant c'est l'amour. Et si tout se passe bien, ce sera pour toujours. Mais quand les parents découvrent ce qui se passe, ils enferment Juliette jusqu'au nouvel an. Roméo, en l'apprenant, se dit « faut qu'on se casse » et commence à échafauder un plan. Mais il ne put mener à terme son projet, car les parents avaient condamné le balcon. Lourd est le parpaing de la réalité, c'est la tartelette aux fraises de nos illusions.
L'amour et la rose. Le monde dans sa totalité désire la rose, mais inutile de vous dire qu'elle reste close. Le monde dans sa totalité veut ignorer les épines, mais sachez qu'elles font partie intégrante de l'églantine. Moi, Roméo, c'est par la rose de ma Juliette que j'ai été blessée, vous conseille fortement de ne pas y aller. Car beaucoup l'ont effleuré avant de vainement venir s'écraser, et se sont relevés se ayant compris que toute joie comporte difficulté. Bien que la dernière épine fut notre déclin, certains eurent l'audace d'escalader la rose de nouveau, pour désir regagner le culminant du béguin, et en second y construire leur bungalow. Moi, Roméo, c'est par la rose de ma Juliette que j'ai été blessée, vous conseille fortement de ne pas y aller. Car beaucoup l'ont effleuré avant de vainement venir s'écraser et se sont relevés s'étant compris que toute joie comporte difficulté.
Maintenant, notre studio va accueillir le concert en direct des 5e et des 4e avec Madame Kalujek.
Draws the tears.
Merci beaucoup pour ce moment musical. Nous allons continuer sur la musique. Je vais vous proposer une pause musicale pour avoir le temps d'installer la salle. Merci. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir dans ce studio les élèves de la classe du PE2A. Awa, Aboubakar, Abra, Yaman et Kaoula, qui témoignent que le collège essaye d'agir pour l'objectif de développement durable numéro 10, inégalité réduite. L'UPE2A est une classe spéciale qui accueille dans certains collèges les élèves qui ne parlent pas français. Je vous laisse la parole.
Faisons ensemble le tour de la Terre.
Allons en série. La capitale, c'est Damas. On peut y avoir la grande mosquée des Omayyades.
Faisons ensemble le tour de la Terre.
Allons au Soudan. La capitale, c'est Khartoum. On peut voir la tour Al-Fatih.
Faisons ensemble le tour de la Terre.
Allons en Italie. La capitale est Rome. À Rome, on peut avoir le Colisée.
Faisons ensemble le tour de la Terre.
Allons en Algérie, la capitale c'est Alger. À Alger, il y a le monument Maqam Shahid.
Faisons ensemble le tour de la Terre.
Allons en Tunisie, la capitale est Tunis. À Tunis, il y a le Barbare Village.
Faisons ensemble le tour de la Terre.
Allons en France, la capitale c'est Paris. À Paris, il y a la tour Eiffel et l'arc du triomphe. En France, il y a aussi des macarons.
Alexander est un basketteur.
Alors, où est-ce qu'on en est ? Alexander est un basketteur, c'est vrai ou c'est faux ?
Rimant avec les sports. Alexander est un basketteur.
Rodrigo fait du judo.
Awa fait de la zumba.
Lamine fait de la trampoline.
Yaya fait du combat.
Aboubakar fait du sidecar.
Abra fait de la barre. Ahmed fait de l'escalade.
Nada fait aussi de la zumba.
Ousinou joue au loup.
Ayman fait du badminton.
Dina fait du yoga.
Islam fait de l'escrime.
Marianne fait du cyclotourisme.
Ibelmis fait du tennis.
Obidi fait du ski.
Lamis fait de la danse.
Abdallah fait du combat avec Yaya.
Rudy fait du rugby.
Julia fait de la zumba avec Awa et Nada.
Yaman joue aux dames.
Mohamed fait de l'escalade avec Ahmed.
Haoula danse le cha-cha-cha.
Sabina danse la salsa.
Jason fait de la natation.
Et Mamadou ne fait pas du sport du tout.
Je m'appelle Haoula, j'ai 16 ans. Et je suis marocaine. Toute mon enfance, j'habitais au Maroc, à Oujda, avec ma mère. Mon père travaillait en France. J'ai une sœur et deux frères. Je suis arrivée à Orléans au début de 2018, car mon père est tombé malade. Et ma sœur s'est mariée et j'étais proche d'elle. J'étais trop proche d'elle. J'habitais avec mon oncle et mes cousines. Je suis en collège Saint-Exupéry. Je suis en troisième année, classe depuis 2A. J'aime trop le français et ma classe, surtout mes professeurs. Comme sport, j'aime bien faire de l'équitation parce que j'adore les chevaux. Et j'aime trop la mode. Je voudrais être styliste, mais comme métier, je voudrais avoir mon entreprise pour fabriquer du maquillage naturel. C'est mon rêve.
Je m'appelle Yaman, j'ai 14 ans, je suis syrien, je viens de Syrie après, je suis passé en Turquie en novembre 2015 et après en France en novembre 2017. Je parle arabe et turc, j'apprends le français et l'anglais, j'ai 3 frères et 2 sœurs, ça signifie qu'on est 8 personnes dans ma famille. J'habite dans l'agglomération d'Orléans. À Saint-Jean-de-Bray, je suis élève en 4e au collège Exupéry. J'aime beaucoup les études. Je serai pharmacien ou docteur. Mon père est analyste dans un laboratoire et ma mère est professeure d'art plastique. Quand je suis arrivée en France, je n'ai pas aimé parce que je ne savais pas parler la langue. Mais maintenant, j'aime beaucoup la France et je vais à l'école et j'aime trop mes professeurs. Je souhaite qu'elles m'aiment aussi. J'aime beaucoup les mathématiques et je suis bonne dans le calcul. J'aime aussi la science physique et chimique.
Je m'appelle Awa. Je suis italienne d'origine sénégalaise. Je suis arrivée à Orléans en août 2017. Je suis venue ici avec mon père, ma mère et ma sœur. Je suis arrivée, j'avais très peur parce que je connaissais pas la langue française et je connaissais personne. Mais après, j'ai trouvé des amis et ici, il y avait aussi mon cousin. Quand j'étais petite, j'étais déjà venue ici et aussi en 2014. Mais j'avais jamais pensé de venir ici à vivre. Ici. Mon collège, c'est le collège Saint-Exupéry. Je suis dans la classe 6e E UP2A. Quand je serai grande, je voudrais être gynécologue parce que ma cousine, ce qu'elle fait comme travail. Et que ma cousine, je la considère comme ma grande sœur. Je voudrais faire comme elle.
Je m'appelle Abrar, j'ai 13 ans. Je suis soudanaise, je viens du Soudan. J'ai une sœur et deux frères. Je suis arrivée au début de 2017. Je suis passée par l'Arabie Saoudite. Après, on est venu ici en France. J'aime aller au collège. Je suis dans la classe UPE2A. J'aime mes professeurs. Au Soudan, les professeurs tapent les élèves et j'ai des cicatrices. C'est pour ça qu'on est venu en France. J'ai ma tante ici avec sa famille. J'habite à Orléans avec ma famille. J'aimerais être dermatologue.
Je m'appelle Aboubacar, j'ai 15 ans. Je suis en France depuis le 7 avril 2017. Je vis précisément à Orléans. Je suis au collège Saint-Exupéry. Je suis en classe de 4e UPE2A. Grâce à les professeurs, j'arrive à bien parler et à bien écrire. J'aime l'école même si j'ai des difficultés. Au collège, j'adore tout le monde et surtout les professeurs sont très gentils et sympas. Qui a eu cette idée un jour d'inventer l'école? À l'école, et l'école est le savoir de la vie. Grâce à l'école, on arrive à lire les journaux et à compter et à faire des conjugaisons. Donc, c'est bien d'inventer l'école.
Merci pour cette aparté des UPE2A. Je vous propose une pause musicale et à tout à l'heure. Pour terminer cette émission spéciale, nous allons nous intéresser aux projets liés au développement durable, inaugurés ce matin dans notre collège. La main à la pâte. Je laisse la parole à Enzo, Clarisse, Roman, Matteo et Isaac.
Bonjour, je m'appelle Enzo et je représente la classe de 6e née du Collège Saint-Exupéry de Saint-Jean-de-Bray. Et nous sommes heureux de vous faire part de ce que nous avons étudié cette année en mathématiques. Je vous présente trois compagnons ici présents, Clarisse, Eva et Roman. Et c'est Clarisse qui prend la parole.
Bonjour à tous. Nous avons travaillé sur le danger de la biodiversité. Pour cela, on s'est intéressé à la lecture des diagrammes circulaires, et précisément sur les abeilles. Notre diagramme est présenté en pourcentage. Il montre la répartition des causes de la disparition des abeilles. Les deux plus grandes causes sont les pesticides à 40%, ensuite les ondes électromagnétiques à 30%. Il y a aussi l'OGM, organisme génétiquement modifié, et la troisième cause de disparition des abeilles.
Merci, mais est-ce que tous les élèves se sont intéressés aux abeilles ? Roman ?
Bonjour. Non, la biodiversité touche bien évidemment tous les vivants. Il y a des binômes qui ont étudié sur les plantes, d'autres sur les animaux, sur les insectes, etc. Ensuite, chaque binôme a présenté oralement son travail à travers la lecture des diagrammes circulaires.
Les élèves de 6B ont aussi fait ce travail. Écoutons Matteo et Isaac.
Qu'est-ce que c'est la biodiversité ? En 1986, un mot nouveau a été inventé pour désigner l'extraordinaire richesse des espèces vivantes sur Terre, biodiversité. Depuis 10 ans, plusieurs découvertes importantes ont mis en lumière tout ce qui implique la biodiversité et le rôle essentiel qu'elle joue pour notre planète. Le grand scientifique américain Edward Wilson, comme l'inventeur du mot biodiversité, en donne la définition suivante : la totalité de toutes les variations de tout le vivant. Il faut avoir en mémoire que pour une espèce qui disparaît, de nombreuses interactions disparaissent.
En mathématiques, on a appris ce qu'était la biodiversité, qui l'a inventée, et tout ce que la biodiversité nous apporte. Nous avons cherché au CDI un diagramme représentant les menaces contre la biodiversité. En SVT, on a regardé les pourcentages de perte d'espèces. Après, nous avons rencontré Stéphanie Blanquet, qui est venue en SVT, pour nous aider à trouver comment on s'y prend pour étudier la biodiversité d'une mare. Pour ce travail, nous avons des instruments, jumelles, épuisettes, petit aquarium, microscope, etc. Et des affiches qui nous montrent la mare en été et en hiver. Donc, nous avons proposé de prendre des petits crustacés avec le filet à plancton pour les distinguer des plus grands. Stéphanie Blanquet nous a donné des conseils.
Nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Blanquet, la chercheuse qui a accompagné les 6e dans leur projet, qui a bien voulu répondre aux questions d'Eva et Mohamed.
Quel est votre métier ?
Donc bonjour, je suis Stéphanie Banquède, je suis ancienne chercheure à l'Université d'Orléans. Ça consiste à donner des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques à des étudiants en licence 1, 2, 3, en master. Et j'ai aussi donc une partie de mon métier qui est consacré à faire de la recherche. Donc je travaille sur des insectes.
Quelle activité faites-vous dans une journée de travail ?
Alors, au cours d'une journée de travail, je peux avoir donc des enseignements, donc où je donne un cours à des étudiants, que ce soit en amphithéâtre ou en plus petits groupes, sur des thèmes variés qui sont liés à l'écologie, ça peut être de la biologie générale, de la biodiversité aussi, ou de l'entomologie. Et je peux aussi avoir une journée qui est entièrement consacrée à l'enseignement, ou alors une journée que j'arrive à dégager pour continuer mes recherches sur les insectes et la génétique des populations d'insectes.
Pouvez-vous expliquer à notre public ce qu'est la biodiversité ?
Alors la biodiversité, c'est un mot qui est très général, qui signifie qu'on considère le vivant comme étant très diversifié. Il s'agit donc d'une approche à plusieurs échelles. Il y a la biodiversité spécifique, où là on s'intéresse aux différentes espèces qui sont présentes dans un milieu donné. Il y a la biodiversité à l'échelle donc d'une population, c'est-à-dire que là, on s'intéresse à une espèce donnée. Et on va essayer de comprendre si cette espèce, elle est faiblement diversifiée ou au contraire, elle est donc très fortement diversifiée. Pour cela, on étudie les gènes, certains gènes au sein donc des individus, pour essayer donc de comprendre cette biodiversité intraspécifique. Et puis, tout au-dessus de ça, il y a un troisième niveau de biodiversité, c'est la biodiversité à l'échelle des écosystèmes, où là, on s'intéresse à ce qu'on appelle l'écologie de communauté, cette diversité d'espèces qui interagissent dans un milieu donné, dans un contexte parfois donc de réchauffement global, et cette biodiversité parfois peut être menacée.
Pourquoi vous vous êtes spécialisée dans la biodiversité ?
Alors, je me suis intéressée à la biodiversité plutôt à l'échelle intraspécifique, c'est-à-dire que je vais étudier la diversité génétique de populations d'insectes donnés. Et de point de vue plus, général, de par mes enseignements ou de par des activités de vulgarisation ou, par exemple, lorsque je suis venue dans votre collège, je trouve qu'il est très intéressant d'essayer de faire comprendre aux enfants, mais aussi aux plus grands, l'importance de préserver la biodiversité pour que nous vivions dans un monde meilleur.
Pourquoi certains insectes sont-ils en voie de disparition ?
Alors, les menaces qui pèsent sur les insectes et sur un grand nombre d'êtres vivants sont directement liées aux activités humaines, on dit aussi les activités anthropiques. Ces activités conduisent à une modification des habitats, à une fragmentation du paysage qui vont dégrader en fait le milieu de vie des espèces. Donc les insectes, parmi d'autres espèces, sont en voie de disparition parce que parfois ils ne retrouvent plus les ressources nécessaires pour assurer leur développement, pour assurer leur site de nourrissage. Et donc c'est ainsi que dans les milieux fortement dégradés, ils peuvent être en voie de disparition et leurs effectifs vont diminuer au cours du temps.
Comment ferions-nous s'il n'y avait plus d'abeilles ?
S'il n'y avait plus d'abeilles, la vie sur Terre serait très compliquée. Alors, lorsqu'on parle des abeilles, je tiens à préciser ici qu'il ne faut pas considérer que l'abeille domestique, qui est d'ailleurs très médiatisée, mais il faut surtout considérer les abeilles sauvages. Il existe des milliers d'espèces d'abeilles sauvages dans le monde. Ces abeilles, ce sont ce qu'on appelle des pollinisateurs, c'est-à-dire des insectes qui vont transporter le pollen pour vont de fleur en fleur pour récolter le pollen pour leurs propres besoins de nourrissage, mais de par leur déplacement, ils vont permettre la pollinisation et donc la fécondation des fleurs. Donc s'il n'y avait plus d'abeilles, il y aurait des problèmes pour que les espèces végétales puissent se reproduire. Et concernant les activités agronomiques dont a besoin l'homme, celles-ci seraient fortement menacées parce qu'il n'y aurait plus de reproduction possible grâce à ces milliers d'individus qui font le travail pour nous.
Quelle solution y a-t-il à ce problème de la disparition des abeilles ?
Alors là, c'est une très grande question qui va être difficile de résumer en quelques mots. Les solutions à la disparition des abeilles, ça va être peut-être de davantage préserver l'environnement et totalement arrêter l'usage des insecticides qui sont encore malheureusement répandus dans l'environnement. Les abeilles sont fortement menacées par les insecticides de type néonicotinoïdes ou autres insecticides qui ont une action sur leur système nerveux, provoquent en fait des problèmes sur ne serait-ce que la mémorisation pour revenir à leur ruche ou dans le cas des abeilles sauvages à revenir sur leur site. Donc d'un point de vue phytosanitaire, il pouvait y avoir davantage une réglementation à l'échelle, planétaire, beaucoup plus en faveur de la biodiversité, ce serait un grand pas. Et puis, bien sûr, il existe d'autres solutions, comme diversifier les cultures, permettre une gestion beaucoup plus en lien avec le respect de la nature dans tout ce qui est donc agronomie.
Merci beaucoup à vous, Madame Blanquer. Aussi, nous sommes intéressés au 7e continent. Cela concerne quoi ? Et quel est le lien avec les mathématiques ? Je laisse Romane répondre à ces questions.
Je tiens à répondre à la deuxième question en premier. Les mathématiques sont partout. Et c'est un outil principal pour calculer, pour analyser, pour raisonner. On n'en est pas conscient, mais les mathématiques sont présentes dans beaucoup d'aspects de notre vie quotidienne. Pour revenir sur le 7e continent, on ne peut pas parler d'un 7e continent. En réalité, il y en a 5. 5 amas de déchets. C'est l'équivalent de la taille du Canada. Environ 9 984 670 km². Et pour arrondir, cela fait 10 millions. Il y a environ 5 kg de déchets tous les km². Les déchets causent la mort de 1,5 million d'animaux marins tous les ans. 80% des déchets sont du plastique. Pour sauver nos mers et océans, Bojan Slat, le créateur du projet The Ocean Cleanup, a créé une machine qui récupère les déchets dans l'océan.
Je vais maintenant vous citer un article de TV5 Monde. Au moins 1800 milliards de déchets plastiques polluent les océans. Au fil des années, ils se sont agglomérés en une monstrueuse masse qui ne cesse de s'étendre en plein Pacifique. Une étude publiée le 22 mars 2018 montre que ces continents flottants s'étalent sur une surface équivalente à 3 fois celle de la France. Selon l'étude de l'organisation Ocean Cleanups, publiée dans la revue scientifique Report, ce septième continent de plastique occupe 1,6 million de km² dans l'océan Pacifique. Le vortex étudié se situe à mi-chemin entre Hawaï et la Californie. Le chiffre a été rendu public le 22 mars 2018 et montre que l'ampleur du phénomène de concentration des déchets dans l'océan est beaucoup plus étendue que l'on ne l'imaginait, jusqu'à 16 fois plus. Si ces détritus flottants devaient être ramassés, il en ressortirait une masse de 80 tonnes. Cette concentration, due au courant marin, n'est cependant pas une masse compacte. Les auteurs de l'étude ont considéré qu'un kilo de déchets dans un kilomètre carré de surface faisait partie du septième continent. Pour leur évaluation, les chercheurs ont effectué de nombreux survols aériens de la zone et analysé pendant 2 ans 1,2 million d'échantillons récoltés dans l'eau. Ils ont notamment découvert que ces déchets ne sont pas seulement microscopiques, mais que les 3/4 des débris dépassent les 5 cm, près de la moitié d'entre eux sont du matériel de pêche abandonné.
Merci pour cette interview et pour ce moment écologique. Je vais vous proposer une pause musicale pour laisser à nos prochains invités le temps de s'installer. Merci.
Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. And you will find happiness without an end if you pretend. Remember, anyone can dream. And nothing's bad as it may seem. Little things you haven't got could be a lot if you pretend. You'll find a love you can share, one you can call your own. Just close your eyes, you'll be there. You'll never be alone. And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? One you can call your own. And just close your eyes, you'll be there. You'll never be alone. And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? So why don't you pretend? So why don't you pretend?
Bonjour à tous. Pour conclure cette émission, nous avons l'honneur d'accueillir des invités spéciaux, Hélène Mounty et Jean-Marc Sepsou, pour le réseau des écoles associées à l'UNESCO. Madame Mounty et Monsieur Sepsou, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder cette interview. Madame Mounty, d'abord pourriez-vous nous préciser ce qu'est le réseau des écoles associées à l'UNESCO ?
Oui, alors le réseau des écoles associées à l'UNESCO est un réseau qui a été créé historiquement en 1953 et qui a pour mission de développer la coopération internationale et de promouvoir les écoles de la paix, puisque c'était le nom initial de ces écoles. Et aujourd'hui, il y a environ 10 à 11 000 écoles dans le monde, réparties donc sur les 5 continents. Et en France, nous en avons actuellement 116 qui ont donc ce fameux label « membre du réseau des écoles associées de l'UNESCO ». Donc ces écoles ont pour mission de mettre en œuvre les objectifs de développement durable, mais aussi de promouvoir la paix à travers le dialogue interculturel, d'aborder donc tout ce qui relève des droits de l'homme, de pouvoir aussi protéger et développer des projets autour du patrimoine. Donc on touche en fait à toutes les valeurs de l'UNESCO et à tous les thèmes, sans oublier bien évidemment les sciences, la culture au sens très large. Et le principe de ces écoles est aussi de faire partie d'un réseau qui leur permet de se rencontrer une fois par an lors d'un séminaire national de 3 jours qui a lieu donc à Paris dans un lieu culturel emblématique et aussi au Centre international d'études pédagogiques de Sèvres qui nous accueille depuis de très longues dates, donc c'est presque une tradition. Et l'ensemble des coordonnateurs enseignants experts dans leur discipline qui sont donc en général à l'initiative de cette adhésion dans le réseau des écoles associées sont présents avec la présence également des chefs d'établissement et donc ils représentent à ce moment-là au niveau national l'ensemble du réseau. Donc ils sont à peu près cette année ils étaient environ 100, 110, 125 à peu près je crois, avec aussi la participation des experts de haut niveau sur les thèmes que j'ai cités précédemment. Ça peut être le patrimoine, ça peut être les droits de l'homme, la solidarité internationale, tout ce qui correspond à l'UNESCO.
Merci. Monsieur Sepsou, pouvez-vous nous parler du projet phare aujourd'hui pour demain ?
Oui, alors ce projet a été créé en novembre 2016 au Sénégal. C'était le point de départ et il concerne 25 pays dans le monde, dont la France. Et plus de 300 écoles maintenant sont lancées dans l'adaptation et l'atténuation au réchauffement climatique, parce que vous n'êtes pas sans savoir, effectivement, vous l'avez évoqué précédemment dans votre émission, que nous avons un problème majeur, l'enjeu mondial de faire face à ce réchauffement climatique. Et l'UNESCO s'est posé la question de comment agir efficacement. Et l'idée n'était pas de partir avec toute la société, parce que même si on en parle beaucoup, tout le monde n'est pas prêt encore à ça, mais partir sur un pool d'écoles, donc un ensemble d'écoles qui allaient s'engager, comme la vôtre, sur l'atténuation, donc comment s'adapter petit à petit à ce réchauffement et puis lutter, mais à notre échelle. Et donc, de l'école maternelle au lycée, nous avons, à travers 25 pays, engagé des actions, donc plus de 150 000 élèves sont actuellement en train de d'œuvrer sur ce sujet et obtiennent déjà des résultats.
Merci. Madame Mounty, pourquoi est-ce important de parler des objectifs de développement durable à l'école ?
Alors, c'est important d'abord parce que c'est à l'initiative d'un agenda 21 qui permet aussi d'atteindre des objectifs. Donc, pour atteindre des objectifs, il faut d'abord en parler. Et dans un établissement scolaire, il faut effectivement prendre en compte à la fois les disciplines enseignées, la vie collective et d'inciter toute la communauté éducative à se sensibiliser et à travailler, comme l'a dit Jean-Marc, donc à lutter au quotidien contre le réchauffement climatique. Donc tous ces objectifs qui se déclinent donc en 17 points ont pour but d'abord de sensibiliser, d'éduquer les élèves à une éducation de qualité en vue d'un développement durable, c'est-à-dire en vue de pouvoir s'inclure dans nos sociétés et de pouvoir aussi mettre en œuvre au quotidien, alors par des gestes simples, par le tri des déchets, par une réduction de consommation d'électricité, tout ce qui peut en tous les cas permettre à notre planète de continuer voilà, de vivre et d'avancer en ayant, voilà, comme il a été dit tout à l'heure, ce sens du bien commun et du partage. Donc les objectifs ont d'abord pour mission de sensibiliser et d'éduquer à cet environnement. Bien sûr, il touche tous les domaines puisque toutes les disciplines sont concernées par les objectifs de développement durable. Donc, il n'y a pas que les sciences, il y a les arts, il y a la littérature, toutes les disciplines pour un élève, pour les élèves, les concernent en ce qui concerne justement ces objectifs.
Merci. Monsieur Sepsou, pouvez-vous nous donner des exemples d'actions menées dans des écoles autour des objectifs de l'UNESCO ?
Alors, nous pouvons prendre comme exemple un thème qui m'est cher, celui de l'égalité entre les sexes, il y a peu, un établissement scolaire a reçu une entreprise sur cette thématique et une jeune femme, ingénieure, est venue expliquer son parcours et la difficulté qu'elle a pu, en tant que femme, avoir en France un parcours scientifique cohérent et pouvoir avoir sa place dans l'entreprise. Ce n'est pas si évident. Alors, on a l'habitude de croire en France que que nous sommes parfaits à ce sujet. Nous ne sommes pas, donc c'était une action intéressante. D'autres actions ont été menées, comme par exemple sur l'environnement, sur la préservation de l'ODD-15, la vie terrestre, où nous avons des jardins qui ont été créés et des jardins participatifs, où certaines écoles ont pu apporter à la communauté un savoir, des légumes anciens ou alors un savoir-faire. Comment cultiver un légume? Alors qu'on perd un petit peu ces jardins petit à petit, bien des écoles ont réussi à renouer ce lien. Et un autre exemple sur des partenariats avec des entreprises, qui me semble moi très très intéressant, qui est le tissu classique d'une société, tissu économique, dont on a réellement besoin. Mais les entreprises se posent, elles, des questions sur ces fameux objectifs. Est-ce que je vais les mettre en place? Comment je vais les mettre en place? Et les écoliers, les collégiens, ont une expertise, ont un savoir-faire, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en cinquième, par exemple, ou en seconde, on travaille sur ce développement durable. Et ces mini-experts peuvent maintenant échanger, parce que ce sont aussi des futurs consommateurs, ou déjà des consommateurs, peuvent échanger sur ce qu'ils attendent de la société. Et donc, il y a, par exemple, des projets qui ont été menés dans ce sens dans nos écoles.
Merci. Que pensez-vous des actions qui ont été menées dans notre collège ?
Alors, je suis moi toujours surpris, je suis assez souvent sur le terrain, et il est vrai que la première fois que je me suis rendu dans votre établissement, ce qui m'a marqué avant tout, c'est la qualité du travail qui était mené à l'international. Voilà. Ça, j'avoue que je m'attendais à un établissement au départ replié sur lui-même. Parce que la physionomie, moi je suis habitué parfois à des établissements qui se trouvent en pleine campagne. Et donc là vous êtes au milieu d'une ville et je m'étais dit en voyant ces grilles, tiens, c'est peut-être un établissement replié sur lui-même, mais ce n'est absolument pas le cas. Vous êtes un établissement extrêmement ouvert et ce travail international m'a surpris. Et puis la diversité aussi de ces projets. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez des projets phares en sciences, mais je remarque derrière une volonté de s'ouvrir, comme le disait Madame Mouti, aux arts, par exemple, une volonté de s'ouvrir au monde sur toutes les thématiques. Et j'avoue être attentif parce que j'aimerais bien voir cette mare, par exemple. Vous avez parlé d'une mare, je crois, qui devrait voir le jour dans quelques mois ou quelques années. Et ça montre aussi le dynamisme, c'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs dans cet établissement. Et je ne parle pas de rêve, je parle d'objectifs et on essaie de les atteindre. Et je le ressens aussi bien dans l'équipe que chez les élèves, donc je suis assez admiratif.
Et vous, madame ?
Oui, alors moi je viens d'avoir l'opportunité de voir les travaux, notamment donc un travail qui a été fait en lien avec Erasmus+, donc je félicite à nouveau tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait autour d'Erasmus+, et puis des élèves qui ont aussi présenté, qui ont fait un retour sur leur stage, qui ont observé des universitaires qui ont justement été en lien avec les sciences, là encore. Donc la parole pour moi et les travaux sont révélateurs de ce que vient de dire Jean-Marc, c'est-à-dire d'un établissement de très haut niveau par rapport à tous les projets qui sont menés et qui s'inscrivent aussi dans cette magnifique région qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Donc vous êtes vraiment dans un cercle bénéfique dans tout cela. Voilà.
Bah merci et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé à cette émission encore merci d'avoir répondu à toutes nos questions et d'être venus.
Merci à votre accueil.
Merci à vous.
Merci.
De rien. Notre émission est terminée. Merci à tous nos auditeurs pour votre attention. Merci à tous les élèves qui ont fait cette émission et aux adultes qui nous ont aidés. Daniel Begdad était le technicien ce matin. Merci à lui, à la ville de Saint-Jean-de-Braye et à la Radio Campus 88.3 pour avoir rendu cette émission possible. Bonne journée à tous.